Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y avait autant de mâles que de femelles? La question ne s'impose pas immédiatement, tant nous sommes habitués à voir chez la plupart des animaux qui nous entourent un équilibre quasi parfait entre le nombre de mâles et celui des femelles, du 50-50. Pourtant, réfléchissons en termes d'énergie et de ressources, comme un ingénieur. Partons de l'hypothèse raisonnable qu'il faut sensiblement la même quantité d'énergie pour faire un lapin mâle et un lapin femelle. Ajoutons à cela qu'il faut du temps à une lapine entre sa fécondation et la mise au monde de ses petits. Ajoutons encore qu'un lapin mâle peut féconder de nombreuses lapines sans trop d'efforts. Un ingénieur en déduirait que le système le plus rentable serait celui où le nombre de femelles serait bien supérieur à celui de mâles. Chaque mâle féconderait alors de nombreuses femelles, lançant ainsi la fabrication de nombreux petits lapins. Alors pourquoi 50-50? Tout simplement parce que l'évolution passe par là et qu'il convient de prendre en compte le succès de la transmission des gènes. Je m'explique. Imaginons une population de lapins où domineraient les femelles et plaçons-nous dans la peau d'une lapine. L'idée est que je transmette au maximum mes gènes aux générations suivantes et au plus grand nombre. Si je fais un petit lapin mâle, comme ces derniers sont rares et fécondent de nombreuses femelles, la transmission de mes gènes sera large et efficace. Tandis que si je fais une femelle, qui sera de plus en concurrence avec toutes les autres, la transmission de mes gènes sera restreinte. J'ai donc intérêt à placer mes gènes dans un mâle. Par conséquent, les femelles dont les fécondations donnent les mâles seront favorisées, la fabrication des mâles est boostée. Si d'aventure le nombre de mâles venait à excéder celui des femelles, une régulation inverse se mettrait en place. Par le jeu de la sélection, on arrive ainsi à un équilibre très proche de 50-50, qui vaut aussi bien pour le lapin, l'oursin ou nous. Et c'est bien ce que l'on observe, même si, évidemment, c'est sans intention de départ ni calcul. Élargissons maintenant le propos à une question bizarre. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le sexe existait? Reprenons notre casquette d'ingénieur en quête de rendement. Si notre lapine était en capacité de se dupliquer sans passer par un mâle, que d'économies! Plus besoin de fabriquer des mâles, plus besoin de courir pour en trouver un, ou pour échapper à ses avances. Sans parler d'une débauche de dépenses énergétiques, en cris, lustrage de poils, parades, émissions d'hormones, etc. En fait, nous manquons un peu de recul, car nous projetons sur toutes les espèces ce qui nous semble une évidence. Un individu est non divisible par définition, et qui plus est, original du point de vue génétique. L'individu génétique se superpose à l'individu physique, un génome égale un corps. Mais le biologiste est un empêcheur de vivoter en rond. Il vous dit tout de suite, pas si simple. Il existe chez les bactéries, chez certaines plantes ou des petits animaux comme les rotifères, qui sont des petits animaux aquatiques, des clonages permanents qui produisent un seul individu génétique représenté par des milliers voire des millions d'individus physiques, séparables et bien distincts les uns des autres. Et ça marche ce clonage? Regardons les bactéries qui se multiplient vite, toutes semblables à elles-mêmes. Une génération toutes les 20 minutes pour la fameuse Escherichia coli à 37 degrés. La multiplication clonale produit efficacement beaucoup d'individus, c'est un vrai travail à la chaîne en fait. Mais lorsque leur matériel génétique s'endommage, car il finit bien par s'endommager, les bactéries sont bien ennuyées. Vous croyez qu'elles sont ennuyées? Pas du tout. Elles diversifient leur génome via des mutations. Et comme elles se dupliquent très vite, il y a toujours des mutations qui se produisent. Mais elles peuvent aussi remplacer des pièces défectueuses par des échanges d'ADN grâce à plusieurs mécanismes. Le mécanisme le plus connu, le plus largement répandu, c'est la transduction. En fait, c'est lorsqu'un virus va infecter une bactérie, il va récupérer de l'ADN de cette bactérie et il va le transporter directement vers une autre bactérie. C'est un mécanisme qui est extrêmement efficace et c'est lui qui explique en grande partie la capacité des bactéries à s'adapter pour résister aux antibiotiques. Regardons les rotifères maintenant. Chez ces rotifères, il existe un mécanisme de réparation de l'ADN tout à fait original pour des animaux. Et c'est ce qui explique qu'ils n'ont plus besoin de sexe depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Pourquoi alors chercher des mâles si le clonage marche si bien? Ces mâles réduisent d'abord de moitié la représentation génétique de la femelle, puisqu'à la génération suivante, au lieu qu'il y ait un partage entre 50% de génome qui vient du père, 50% de la mère, tout viendrait de la mère. Donc s'il n'y a pas de mâle, tant mieux pour la femelle. Donc ça réduit la représentation génétique de la femelle dans sa descendance, et en plus, la plupart du temps, ces mâles ne s'occupent même pas de la descendance. Donc se cloner soi-même, franchement, ça serait quand même un peu plus simple. Si l'on se place du point de vue de l'individu, 100% de ses gènes se retrouveraient à la génération suivante, à quelques mutations près. Du point de vue de l'individu toujours, il vaut mieux reproduire du « moi-même » que de se mélanger avec un autre, avec en plus le risque de tomber sur des partenaires qui ne sont pas toujours terribles. Nous devrions alors assister à l'avantage immédiat des femelles, se clonant elles-mêmes. D'ailleurs, cela existe dans la nature, et cela s'appelle la parthénogenèse. De nombreuses espèces de champignons se clonent, ainsi que des plantes, mais aussi des pucerons et de rares vertébrés, comme certains poissons et quelques lézards. Autre désavantage apparent du sexe, si chacun des parents était doté d'une combinaison génétique gagnante dans l'environnement du moment, le sexe va brasser à nouveau cette combinaison gagnante, au risque de la faire perdre. Les cartes du jeu génétique vont être rebattues, au risque de rendre la génération suivante moins efficiente. À trop jouer, on peut tout perdre. Malgré tous ces désavantages, le sexe reste plus répandu que le pur clonage. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre ? Je me permets de reposer avec insistance la question : pourquoi le sexe ? Pour bien comprendre, il faut se placer à un autre niveau que celui des individus et passer à celui de la population. Car s'il y a bien une chose que nous a appris Charles Darwin, c'est que l'intérêt immédiat de l'individu sur le court terme n'est pas nécessairement compatible avec l'intérêt de toute la population sur le long terme. Je vous explique. Tout part du fait que l'environnement, au sens le plus large, change en permanence. Une année verra un hiver glacial, une autre, une canicule, une sécheresse, un prédateur inconnu va pointer son museau, une plante deviendra un peu trop prolifique pour ses voisines, une bactérie arrivera avec des rats et des puces et refilera la peste aux humains. Donc face à un changement d'environnement qui met en péril la survie des individus, le clone est finalement bien embêté, puisque tous les individus étant semblables, ou presque, tous seront affectés et la population aura du souci à se faire. Le sexe, lui, est une machine à produire de la diversité. Et si un problème survient, tous les individus de la population ne le subiront pas de la même manière, et certains pourront finalement s'en tirer. Reprenons le cas de la peste. Au XIVe siècle, il n'y avait pas de remède. La moitié de la population européenne va mourir. Pourtant, en dehors de quelques villages reculés, tous les humains de l'époque, qui vivaient en Europe, ont été confrontés à la bactérie Yersinia pestis. Et pour autant, tout le monde n'est pas mort. La diversité de nos ancêtres, et donc la diversité de leur système immunitaire, a permis à la moitié d'entre eux de survivre. Donc merci pour le brassage génétique induit par la reproduction sexuée. Je ne résiste pas non plus à vous narrer un exemple magnifique, très démonstratif, qui touche à la lutte contre les parasites. Je vais vous parler d'une espèce de lézard australien, un gecko, qui a la possibilité de se reproduire soit de manière sexuée, soit par parthénogenèse. Et ce pauvre gecko est la victime d'acariens parasites. Or, on a pu constater que les geckos issus d'une reproduction asexuée ont une probabilité 150 fois plus grande de porter des acariens parasites que les geckos issus de la reproduction sexuée. Simplement parce qu'ils sont tous semblables les uns aux autres. Le sexe contribue donc à la lutte contre les parasites. Du fait que tous les individus de l'espèce hôte ne soient pas identiques, certains vont s'en sortir mieux que d'autres. Cela va contraindre les populations parasites à s'adapter, autrement dit, de les rendre moins efficaces dans leur expansion, Mais évidemment, les parasites ne vont pas rester les bras croisés. Ils sont eux aussi divers et les plus coriaces vont tenter de gagner les hôtes qui résistent encore. Donc en fait, il y a une course aux armements qui est lancée, comme entre le canon et la cuirasse dans la marine de guerre. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le sexe est un booster de variations génétiques chez l'hôte comme chez le parasite, et dans cette course, il va accélérer l'évolution et forcer les parasites à courir aussi vite que leurs hôtes. Cela correspond à ce qu'on appelle une coévolution. Mais le sexe offre-t-il d'autres avantages ? Si je pose la question, vous vous doutez que la réponse est plutôt oui, et pas que pour le bien-être. Les changements de l'environnement ne sont pas que temporels. Les plus évidents sont aussi spatiaux. Il existe des régions plus ou moins chaudes, plus ou moins tempérées, plus ou moins froides, des régions avec d'autres types de ressources alimentaires ou d'autres menaces. Au sein d'une population, des individus audacieux s'aventurent en permanence dans les régions voisines ou se risquent dans des environnements inhabituels. Attention, je ne parle pas là nécessairement de mouvements volontaires. On peut penser à une graine de pissenlit emportée par le vent qui va atterrir dans une autre contrée. La plupart de ces tentatives vont être vouées à l'échec, mais la diversité engendrée par la reproduction sexuée peut faire que quelques individus auront la capacité de s'installer dans des habitats un peu différents et d'étendre l'aire de distribution de la population. Cette diversité générée par le sexe est la clé de l'évolution. Plus une population sera diverse, plus elle pourra faire face en cas de changement de l'environnement. Les moins bien pourvus d'aujourd'hui peuvent devenir les chanceux de demain dans cette grande loterie. C'est ce qui s'appelle en fait ne pas mettre ses œufs dans le même panier, contrairement à d'autres comme les bactéries qui ont opté pour une reproduction clonale et qui risquent évidemment beaucoup en cas de changement de l'environnement. Une forme de vie dangereuse, un peu à leur manière. Alors pour résumer, on peut considérer que le sexe est dangereux pour l'individu. En revanche, il est bénéfique pour la population, puisqu'il est un moteur particulièrement efficace pour maintenir un lignage en forme et contribuer à son évolution au fil des changements de l'environnement. Et une lignée aura un avenir évolutif d'autant plus radieux si elle est en capacité d'innover à chaque génération. Alors certes, cela fera des victimes, puisque les individus qui, par hasard, auraient été moins bien pourvus au regard des contraintes du moment, laisseront alors moins de descendance ou mourront. Mais il y en a d'autres qui seront là pour assurer l'avenir de la population et de l'espèce. Donc en résumé, vraiment, pour les populations et les espèces, le sexe, c'est se préparer à l'avenir. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charles Trou.